France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, honneur aux timides, aux distraits, aux grands blonds, même sans chaussures noires, puisque je reçois Pierre Richard de retour sur scène dans Petit Éloge de la Nuit. Nous reviendrons en musique sur ses débuts au cabaret Le Cheval d'Or, ses rencontres avec Brassens et Vladimir Cosma, ou encore les chansons qu'il a enregistrées. Pierre Richard à ce micro dans quelques instants. Le temps de réécouter un titre que vous avez plébiscité, vous en vouliez encore, eh bien, le voici.
Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa, élevez des singes, élevez des chats, soyez radeuses, avenue du Bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur le col, du flageolant dans la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se pencher avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant quatre fois par mois. Ah, la belle vie que ce sera si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
Ah oui, quel terrible portrait de la misère humaine, ou plutôt de la misère masculine, au petit matin. C'était « Vous mariez pas les filles », une chanson de Boris Vian interprétée par Michel Arnaud en 1958. Thank you. délicatesse. C'est un mot qui lui convenait bien à Marcel Azola et c'est aussi le titre de cette composition qu'il a écrite en 1957, le cher Marcel Azola, dont nous fêtions les 90 ans sur France Musique il y a 2 ans. Voilà, Marcel Azola qui vient d'être célébré également par un coffret sorti chez Marianne Melody. Vive Marcel Azola, 120 titres d'or, un peu de toutes les époques de sa carrière, dont celui que nous venons d'entendre. Et puis je rappelle aussi à tous les amoureux de l'accordéon que la semaine prochaine, on rediffuse l'émission spéciale enregistrée pour les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît avec beaucoup d'accordéons et notamment Daniel Collin qui jouera quelques grands classiques du Musette.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais pour l'heure, on retrouve mon invité. Vous le connaissez tous, évidemment, à travers ses innombrables films comme acteur ou comme réalisateur. Le Distrait, le grand blond avec une chaussure noire, le Jouet, la chèvre, le coup du parapluie, beaucoup, beaucoup d'autres encore. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que sa vie a été très musicale, ponctuée d'une quantité d'aventures dans les cabarets et de quelques 45 tours. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Pierre Richard. Bonjour Pierre Richard.
Bonjour.
Ça c'est un bœuf chez vous en 1975 avec un merveilleux musicien disparu qui s'appelait François Droubet. Vous vous rappelez précisément?
Ah, oui, bien sûr. Mais je ne me souvenais pas de la musique là, tout à fait. Mais je me souviens bien évidemment de François qui était un ami d'ailleurs, très cher. François Droubet faisait des musiques de films et très curieusement c'était un ami et je n'ai jamais eu l'occasion
de faire de films avec lui.
De faire de films avec lui parce qu'à l'époque j'étais, si on peut dire, dans les bras de Vladimir Kosma.
Ouais.
Si, sûrement que s'il n'avait pas eu cet accident dans lequel il a laissé sa vie, sûrement que...
Vous auriez fait des choses ensemble.
Ouais. Mais la preuve, c'est que j'ai quand même quitté Vladimir pour un certain moment. Puisque je l'ai quitté, ça aurait été François le premier. Il y avait cette fantaisie, cette... Il faisait des concerts tous les samedis avec des copains. Et puis ceux qui n'étaient pas musiciens comme moi, on écoutait. Mais c'était formidable. Il enregistrait tout.
Ouais.
Et à un moment donné, alors nous on était 5-6 non-musiciens qui écoutions, puisqu'on aimait le jazz, c'était du jazz. Puis à un moment donné, il dit, bon maintenant avec vous.
Voilà.
Et il nous permettait de prendre des instruments qu'on massacrait.
Mais il n'était pas du tout censeur, hein.
Au contraire, ça l'amusait. Je dirais même que ça l'intéressait, peut-être qu'il y trouvait des idées. Moi je faisais du scat, un autre faisait du piano misérablement. Mais ça l'amusait beaucoup, mais pas un amusement ricaneur, un amusement de tendresse.
Et c'est un musicien qui est resté assez légendaire, c'est vrai qu'il est mort très jeune, il a écrit beaucoup de musique de film, des musiques électroniques aussi extraordinairement inventives.
Il partait dans tous les sens. Oui.
Et vous faisiez donc des bœufs chez vous, avec lui, avec tous vos amis, comme celui qu'on vient d'entendre.
Quand arrivait le printemps ou l'été, j'habitais dans un moulin dans la campagne, et ben il venait avec ses musiciens, il y avait un grenier, il dormait là le samedi soir, tous les 6 ou 7, parce que pas à 14 chambres. Et puis on faisait des bœufs toute la nuit. Et il est possible de penser que mes fils, qui à l'époque avaient 7 ou 8 ans, à force d'écouter du jazz, ça leur est rentré dans la tête. Et c'est comme ça que le premier m'a dit j'aimerais bien faire de la contrebasse, du jazz. Et puis que quelques années plus tard, le plus jeune, qui était pourtant dans une fac d'histoire, il adore l'histoire. Il l'adore toujours. Il m'a dit un beau jour, je voudrais faire du saxo. Et bon, voilà.
Mais ce qui est drôle d'ailleurs, parce que Pierre Richard, je lisais vos entretiens avec Jérémy Imbert, un livre très, très intéressant sur toute votre vie. Et la musique est quand même très, très présente. Hein. Même si, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas musicien, mais vous avez toujours aimé la musique, vous avez toujours fait de la musique. Voilà.
Oui, j'ai tout fait de la musique, pianoté, fait de la trompette comme un minable, mais tout. La musique m'intéresse. J'ai d'ailleurs un piano chez moi, mais c'est pas pour vous dire que je suis pianiste.
Ouais.
Mais de toute façon, la musique a toujours compté dans ma vie.
Ouais.
Peut-être est-ce à cause aussi de, ou grâce à ma mère, On écoutait Charles Trenet, on allait le voir, on écoutait Maurice Chevalier, on allait le voir, on écoutait, je parle des chanteurs d'antan.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on va.
Et puis, ça, vous me direz que ça, après, je me suis détaché de ces chanteurs. J'ai pas, je me suis pas polarisé sur eux deux, hein. Mais c'est pour dire que c'était ça, c'était ma jeunesse.
Voilà. Et en ce moment, donc, Pierre Richard, et c'est aussi pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, vous êtes de retour sur scène dans un spectacle qui s'appelle Petit éloge de la nuit, tiré d'un texte d'Ingrid Astier que vous jouez seul en scène, enfin, presque seul en scène.
Et. Ben, pas presque seul en scène.
Avec la danse aussi, qui
alors,
est présente.
J'ai quand même cette chance d'avoir dans mon dos sur un écran la sublissime Marianne Gillot.
Exactement.
Qui danse cette sorte de fantasme qui apparaît dans mon dos que je ne vois jamais d'ailleurs, voilà. Ou presque.
Et c'est aussi une forme de musique que ce spectacle, de musique, de rêverie. Enfin, on est assez loin évidemment du Pierre Richard, du distrait et du Grand Blond. Hein. C'est un spectacle poétique, intérieur, nocturne, mystérieux et musical.
Tout autour de la nuit.
Voilà.
Donc tout est autour de la rêverie, puisque la rêverie quand même... On n'est jamais aussi rêveur que la nuit vous porte à ces voyages sans limite. Tout est très musical, effectivement. D'ailleurs,
c'est...
A commencer par le texte, d'ailleurs. Hein, Ingrid Astier a écrit des très jolis textes sur la nuit. Puis, mon metteur en scène, Garouti, là, il ne pouvait pas faire une heure et demie avec les textes d'Ingrid, qui sont très beaux. Mais on a ensuite amené Desnos, Edgar Poe, Baudelaire, Michaud.
Voilà. Les grands poètes de la nuit.
Les grands poètes de... Et toujours, toujours sur le thème de la nuit. Mon metteur en scène m'a filmé l'été chez moi. Je suis entouré d'étangs. La nuit, c'est beau, les étangs.
Ouais, c'est vrai.
Ça donne des reflets particuliers.
Alors, c'est à la Scala en ce moment, jusqu'à la fin du mois de juin. On va y revenir d'ailleurs, mais puisque vous nous faites l'amitié d'être aujourd'hui sur France Musique, je propose d'abord qu'on commence par remonter un petit peu une partie de votre histoire en musique.
Un petit jetto, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour rupin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne le succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève les poids de sang, il nous. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. L'on y croise des visages communs ou sensationnels. L'on y parle des langages connus à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour, c'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins, qui lisent dans les mains, Pigalle. Clochard, camelot, tenancier de tripot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant « Tu viens, chérie ?» Et Prosper qui, dans son coin, discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jetteau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais on m'en vient qu'un seul, Pigalle.
Georges Hulmer, en 1946, vous n'étiez pas bien vieux, Pierre Richard, mais vous étiez dans le quartier Pigalle pendant une bonne partie de la guerre. J'avoue, j'ai du mal à l'imaginer parce que je vous ai toujours vu comme un éternel jeune homme, mais en fait, vous étiez là, à Paris, donc pendant la guerre, enfant.
Oui, quand je me promenais sur ce boulevard, juste avant le métro Pigalle, ouais. Il y avait des vendeurs de chansons, Georges Hulmer, Charles Trenet.
Des petits formats, on les vendait encore.
Des petits formats. Ah ouais. Et les chantaient pour attirer les gens, pour ceux qui voulaient se l'acheter, peut-être pour chanter chez eux, en famille.
Ouais.
La chanson était finalement très présente, au fond, dans le cœur des gens. Et puis les gens autour de chantaient aussi la chanson avec le chanteur.
C'est extraordinaire.
Avant d'aller au travail.
Ah oui.
On ne voit plus ça.
Ah non.
On va au travail maintenant, la tête basse, les épaules rentrées, et on se dit, merde, je vais au travail. Et là, les gens, ils étaient là, je les voyais, ils chantaient un petit jet d'eau, et puis ils chantaient eux-mêmes. C'était charmant.
Et vous étiez un petit garçon, vous promeniez votre chien, qui en plus s'appelait Patachou, mais ça n'avait pas de rapport avec Patachou, parce qu'elle n'était pas encore connue, la chanteuse.
Non, aucun
rapport.
Non.
Mais vous grandissiez donc dans ce Paris...
Ce Paris très, très curieux, oui. Je me souviens d'une... Pigalle, c'est plus comme ça maintenant, évidemment.
C'était une fête foraine.
Oui, c'est une fête foraine. Alors, évidemment, il y avait les péripatéticiennes.
Oui.
Il y en avait une qui m'adorait.
Ah,
j'ai
oui.
mon petit chien, puis elle est gentille comme tout. Quand elle me rencontrait, elle me disait, ah, j'ai pensé à toi. Elle m'offrait une tablette de chocolat. Et elle me dit, c'est un fiancé qui me l'a offert. En fait, c'était fiancé, ça devait être des officiers allemands.
D'accord.
Alors, j'étais,
oui, parce qu'on était sous l'occupation.
Je faisais la collaboration sans le savoir. J'étais fourni en chocolat par ma péripatéticienne de la part d'un officier allemand. Puis quand les Américains ont repris Paris. Pendant 8 jours, j'ai plus rien eu. Puis un jour, elle m'a dit, tiens, du chocolat. Et là, c'était parce qu'elle avait des officiers américains.
Voilà, c'était des chewing-gum même.
Oui, peut-être. Chewing-gum. Alors là, c'était la folie, le chewing-gum.
Alors, il faut dire que le quartier Pigalle, hein, à propos de spectacle, et c'est marquant pour vous, quand on sait le personnage que vous êtes devenu au cinéma, c'était aussi le quartier du cirque Medrano. Mmh. Et je crois que c'est à Medrano que vous avez vu, sans savoir d'ailleurs très bien quelle importance extraordinaire, avait Buster Keaton.
Buster Keaton.
Vous étiez enfant.
À l'époque, j'ignorais encore ce génie. Je l'ignorais encore plus que j'allais devenir acteur. C'est après que, beaucoup plus tard, je me suis dit, c'est quand même incroyable, j'ai vu à 15 mètres de moi ce génie du cinéma américain qui fait partie des, pour moi, des grands, avec Chaplin bien sûr. Oui, c'était
sur la piste de Medrano.
Sur
donc
la piste de Medrano.
Il se produisait là parce que...
Ben oui, il se produisait là parce que pour le moment qu'il était fauché.
Ah oui?
Keaton est mort pauvre. Chaplin est mort milliardaire, mais Keaton est mort pauvre.
Ouais.
Et probablement que s'il faisait une tournée au cirque Medrano à Paris juste après la guerre, faut croire qu'il avait pas beaucoup d'argent, je suppose.
Voilà, vous grandissiez en tout cas dans ce quartier Pigalle, mais aussi beaucoup en pension et aussi un peu dans votre
pension,
famille grand paternelle d'industriel.
Ça c'était les 3-4 dernières années.
Voilà.
Mais sinon j'ai toujours été à Paris. Et puis c'est quand je suis revenu aussi à Paris pour commencer mes études, c'est un mot un peu prétentieux. Mes cours de théâtre, comme j'aimais bien. On en revient à la musique. Hein. J'adore le jazz. Et pour mon petit plaisir personnel, sans aucune ambition ou aucune, objectif, je me suis retrouvé de nouveau à Pigalle, juste à la place Pigalle. Et je prenais des cours de danse américaine, donc sur le jazz.
Ah ouais.
Avec, je me souviens de leur nom, curieusement, Don Lurio, Gene Robinson. Voilà.
Et puis alors, il y a un personnage qui a joué aussi un rôle très important dans ce que vous êtes devenu, après Buster Keaton, c'est Danny Kaye, que vous avez découvert un jour au cinéma. Vous pouvez nous raconter.
Bon, ben là, j'étais à Valenciennes. Là. J'étais
à Valenciennes, dans votre famille d'industriels,
donc du Nord. Autant dire que Valenciennes, qui est une petite ville, tout se sait.
C'était vos grands-parents paternels.
Oui.
Hein, voilà.
Et un après-midi, au lieu d'aller au lycée wallon, c'est le lit qui existe toujours, bien sûr. J'ai fait un crochet, je suis passé par le Novéac, un cinéma qui passait un fou 120 en guerre. Mais j'ignorais totalement qui était ce monsieur, je parle de Danny Kaye. Et si vous m'aviez demandé avant de rentrer dans le cinéma, qu'est-ce que j'aurais voulu faire après mon bac, j'aurais été incapable de vous le dire. Et je suis rentré, j'ai mis une casquette enfoncée jusqu'aux oreilles pour pas qu'on me reconnaisse. Des fois que quelqu'un me dise, mais c'est le petit-fils de Faye. Et j'ai vu Danny Kaye, et là c'était le coup de grâce, l'espèce de d'illumination. J'ai dit, j'ai compris, c'est ça que je veux faire.
Voilà. Et quand on dit qu'il y a un rapport entre le Danny Kaye et le Pierre Richard, qui serait un Danny Kaye français, vous êtes d'accord avec cette comparaison?
Je vais pas me comparer à lui, mais il était grand, il était blond, il dansait, il chantait bien, il chantait avec Armstrong, et moi j'aurais pas vu. Et c'était un comédien drôle et émouvant aussi, donc il y avait des rapports.
Folks, here's a story about me neither moocher She was the low-down hoochie-coocher. She was the roughest and the toughest frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Ouvrez la fenêtre, j'ai-ou-sac.
Ouvrez la fenêtre, j'ai-ou-sac.
She messed around with the king of Sweden. He gave her every little thing that she could need. He gave her $1 million and nickels and dimes. She sat around and counted them a million times. Adi, 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 adi,
adi, adi, adi, adi, adi,
adi, adi,
adi, adi,
adi, adi, adi, adi,
adi, adi, adi,
adi, adi, adi, adi,
adi, adi, adi,
Laita solo o lakitao.
Laita solo o lakitao.
Ilia o to isa.
Ilia o to isa.
Ole ole.
Ole ole.
Ole ole ole.
Ole ole ole.
Hi hi.
Hi hi.
Rip. Beep the gap out of the gap and give him scant for saints and good little bit of the better. He beep the gap out of the gap. Lunas got out. We bet better. Keep on better. The bit better. Give him the gum up to cat. Say a little bit. Little bit. Reap. Go ahead. They sent for Minnie where they put the crazies. Now for old Minnie's pushing up the daisies. This ends the story and it ends my song. She was just an old girl, but they done her wrong.
Danny Kaye, qui sans le savoir a décidé du destin de Pierre Richard. Là, c'était une chanson de 1942, Minnie Mutcher. Je crois d'ailleurs que vous avez rencontré sa fille plus tard, Pierre Richard, la fille de Danny Kaye.
Beaucoup plus tard, je sortais le gros blond. Ça veut dire que,
ouais, ouais. En
que j'ai vu le film, vous pensez bien que j'étais loin du gros blond. Et puis, peut-être, je sais plus, 25 ans, je compte plus les années. Quand j'ai fait le Grand Blanc et le Noir avec Yves Robert, on a été le présenter à New York, au cinéma Le Français.
Le Paris.
Le Paris. Et il a eu un grand succès. D'ailleurs, il est resté des mois. Mais il y avait que ce film, ce cinéma-là.
Hein. Oui, c'était
eux,
le cinéma français.
Eux, ils se prennent 40 places à Paris, mais nous, on a le droit à une. Hein.
Oui, c'est ça. Hein.
Et en sortant, une femme est venue m'aborder en me disant « Monsieur, j'ai vu le film, c'est qu'est-ce qu'il est bien, il est drôle. » Puis alors, vous êtes absolument charmant, drôle et tout ça. Puis elle s'en va. Et puis elle se retourne au bout de 20 mètres, elle se retourne vers moi, elle me dit « Et vous me faites tellement penser à mon père. » Et j'ai demandé à l'attachée de presse, Yann Ocollard, j'ai dit « C'est qui cette dame ?» Elle m'a dit « C'est la fille de Danny Kaye. »
Extraordinaire.
Ouais.
Voilà, au Paris, tout près de Central Park, à New York. Ouais. Ça, sont des années plus tard. Mais alors, je reviens à la musique, puis à votre goût de la fantaisie à travers Danny Kaye. Tiens, j'ai noté ce petit détail. Déjà, à l'école, dans les chants religieux, vous aimiez bien ajouter quelques fausses notes ou des accords imprévus qui contrariaient un petit peu le déroulement de la musique.
Ça, c'était mes années de pension. C'était pas pension religieuse, c'est pas vraiment forcément ce qui est le plus drôle. Et on avait des messes obligatoires avec des chants, donc obligatoires. On avait tous chanté. Et avec deux, trois copains, on s'amusait
à défaire l'harmonie.
Alors si c'était tantum ergo sacramentum, tu vois, je m'en souviens. Ben nous, on faisait tantum ergo sacramentum. Et puis, petit à petit, les curés s'approchaient pour essayer de repérer d'où ça venait. Et alors, évidemment, à ce moment-là, on chantait très juste.
Voilà. Et puis finalement, vous avez quand même imposé d'une certaine façon à votre famille que vous alliez devenir comédien, tout en continuant à faire des petits métiers, même un peu des études de kinésithérapeute notamment, mais assez rapidement, donc dans ces années d'apprentissage, vous êtes retrouvé aussi à vous produire en spectacle dans un lieu mythique qui est le Cheval d'Or à la Contrescarpe, avec votre ami Jean Bouchot. Vous aviez monté un numéro dans ce cabaret musical célèbre de Paris.
Enfin, c'est célèbre, vous êtes gentil.
Enfin, il est resté dans l'histoire des cabarets.
Il est resté dans l'histoire. Il était en haut de la Contrescarpe. Ils étaient tous du Midi. Tous. Montpellier, Aigues-Mortes, Bobby Lapointe, ouais, il était de Pézenas. Ouais. Ils étaient tous du Midi. Et d'ailleurs, ils vivaient tous un peu...
Sucaisser.
Et puis des fois ils disaient ah demain je descends en ville, parce que pour eux Paris c'était la ville et eux ils étaient pas en ville.
Ah oui, d'accord.
Et moi j'étais pas du tout du Midi, maintenant je le suis devenu. Il y avait des gens, il y avait Rissé et Barrier, c'était bien très
sûr,
bien
Rissé et Barrier.
Alors justement c'était swingé, ouais, Rissé et Barrier, c'était toujours un swingé.
Et vous faisiez un numéro de faux espagnol, hein.
Nous on faisait un qui s'appelait Los Bimbos.
Los Bimbos.
Et on avait des pareos, Bouchot avait des grosses pattes noires. Il pouvait avoir une tête.
Il était plus crédible que vous en espagnol.
Il était plus crédible que moi, qui n'était pas tellement. Et puis on faisait et maintenant nous allons vous chanter, j'attends un petit il gato negro d'une cueca del Bolivia. Et puis au bout de deux phrases, moi j'avais un trou. Alors il me dit mais on va rester, mais attends, on me dit, j'ai dit mais je dit mon camarade, il s'excuse, il a eu un trou, on recommence. Et puis j'avais encore un autre trou, puis finalement il se mettait en colère en disant bon, et on chantait une chanson auvergnate. c'était mes débuts.
C'était vos débuts, ouais, sur scène, voilà.
Sur scène. Même Deveau, s'il venait de temps en temps essayer des choses.
C'est vrai, c'était au Cheval d'Or. Vous avez aussi fréquenté, alors ça c'était plutôt des sketchs non musicaux avec votre ami Victor Lanoux, l'Écluse et la Galerie 55.
Hein. Toujours pour parler musique, si, puisque quand même, c'est là qu'a fait aussi ses débuts Barbara.
Bien sûr.
L'Écluse était tout petit, il y avait peut-être 80 ou 100 places. Et Barbara a chanté pour la première fois. Et nous, avec Victor Lanoux, on faisait nos sketchs.
Voilà. Et toujours dans cette vie musicale de votre jeunesse, vous êtes aussi retrouvé, quand même, il faut le dire, en première partie de Georges Brassens à Bobino.
Oui, effectivement. Et la première fois, on a fait Bobino.
Alors là, c'était avec Victor Lanoux, toujours.
Toujours. Ben là, après, à partir de là, c'était toujours avec Victor. Un jour, il y avait une audition. Maurice Béjart faisait passer une audition pour des comédiens sachant danser. C'était ça sur le... Alors, j'y étais parce que j'avais quand même des chances. Et il m'a reçu mal. Puis, il a demandé qu'on mette un disque. Je me suis mis à danser. Mais attends, ce qu'on appelle danse, c'est très acrobatique. Hein.
Ouais.
J'ai fait n'importe quoi. J'ai grimpé au rideau, je faisais flip-flap, enfin tout. Et à ma grande surprise, après, il a dit « Excusez-moi de vous avoir reçu si mal. Depuis 3 jours, je perds mon temps avec des comédiens qui prétendent savoir danser. Vous, oui. » Et je vous prends.
Voilà. Sauf qu'au même moment...
Et je suis arrivé chez moi, Victor m'a téléphoné pour me dire « Georges Brassens nous prend en première partie de Bobino. »
Et voilà. Et
voilà.
Alors, Georges Brassens, il se trouve, Pierre Richard, que vous avez enregistré des années plus tard, en 1992, votre version du Gorille. Alors, j'avais envie de l'écouter en hommage à Brassens. Et puis, en plus, je trouve les orchestrations de Joël Favreau formidables.
Je croyais que vous alliez me parler des passantes que j'ai fait pour Louis Chédid.
Alors moi, je prends celle-ci, ça vous convient quand même. Vous allez la redécouvrir.
Bien sûr, oui, parce que alors là, vraiment, je m'en souvenais plus.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du grandira-t-on. Avec impudeur, c'est commère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feu des deux fuseaux.
Car au gorille,
celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé. Fuir, prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront.
Car au gorille,
monde se précipite, hors d'atteinte du Saint-Jean-Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le cadre humain accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Bas soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire, et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Supposez qu'un de vous puisse être, comme le singe obligé d'eux, violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours m'échoua, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou.
Le Gorille, c'était Pierre Richard en 1992 avec les jolies orchestrations de Joël Favreau, qui avait été lui-même un des musiciens de Brassens.
De Brassens, qui était à Bobino aussi.
Voilà. Et alors Brassens,
avec,
donc vous...
Avec Nicolas aussi, à la contrebasse.
Vous avez pris l'habitude de le voir durant cette période.
Ben oui, parce
de
qu'on
Bobino.
L'a fait trois fois, le Bobino. Avec Victor, en première partie, évidemment. On a fait, je sais pas, un quart d'heure la première fois, puis ensuite on a fait ce qu'on appelait une anglaise.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'est avant l'américaine. Là, on faisait carrément 20 minutes, et puis après on a fait ce qu'on appelle l'américaine, c'est-à-dire qu'on finissait la première partie, donc on commençait et on faisait 30 minutes, et effectivement, j'ai eu le temps. Et on a eu le temps de voir Georges, surtout que le samedi et le dimanche, on jouait deux fois. On n'avait pas le temps de rester chez soi.
Ah ouais.
Et des fois, avec Georges, on restait dans sa loge. Il me chantait des chansons de Trainé qu'il adorait.
Ah oui, il aimait beaucoup Charles Trainé.
Beaucoup. Ou des fois, il me jouait des chansons de lui, mais avec les paroles d'une autre musique. Il me dit, toi, au début, cette chanson-là, je l'avais mis avec cette musique-là.
Ah oui.
Et puis après, je préfère mettre cette musique-là sur telle chanson. Et c'était bien aussi, évidemment. Et
puis vous le rassuriez, hein, parce que c'était un grand traqueur. Alors votre présence, ça le...
Il avait cette particularité absolument charmante d'ailleurs. Aucune grosse star de la chanson faisait ça. Il était déjà dans la première partie de la coulisse et puis il nous regardait. Et puis si notre regard allait dans la coulisse, il nous faisait un signe de la main pour dire ça marche ».
Ah c'est bien.
Et jamais j'ai vu des stars venir en première partie pour voir les non-connus, les inconnus de la première partie. Et alors par contre lui il se retrouvait tout seul dans la deuxième et quand on a compris ça avec Victor, il me disait vous partez ? Bah oui, vous aussi ? Bah oui, parce qu'on avait fini. Ah bon, à la demain. Il y avait l'air si triste que finalement, avec Victor, on restait tous les soirs,
Pour le rassurer.
À côté de Pipchen, sa femme. Comme ça, quand il nous regardait, ben, on était là, on le faisait la même chose. Ça va, ça va. Et c'est comme s'il avait besoin de nous.
Alors, c'est drôle parce que, après quelques années, donc, vous avez fait vos vrais débuts au cinéma avec notamment Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Et Yves Robert, il y a aussi, d'une certaine façon, un lien avec Brassens parce que Yves Robert que Brassens avait
chanté
Les copains d'abord.
Les copains d'abord, oui.
Pour un de ses films. Hein.
De toute façon, c'est pas étonnant quand on connaît Yves Robert.
C'était un homme de musique, Yves Robert. C'était un homme de chanson. C'était.
Oui, il avait quand même fait toute l'après-guerre dans des boîtes dont je me souviens plus le nom, mais des boîtes très connues.
Ouais.
Où débutait aussi des tas de Gainsbourg, je sais pas. Ouais. Et il avait fait beaucoup de boîtes où il faisait des
chansons.
Il chantait pas forcément, mais très musical, quoi.
Il aimait le musical, quoi, comme vous.
De toute façon, vous savez, d'une manière générale, parce que Yves Robert pouvait être très drôle, d'une manière générale, tous les comiques sont des musiciens.
Oui, alors vous avez expliqué ça, c'est très intéressant. Le comique et la musique, ça va ensemble. De Funès en est l'exemple, Francis Blanche en est l'exemple, Darry Cole en est l'exemple.
Francis Blanche écrivait très jolies chansons. Darry Cole était prix de conservatoire. Si je prends les Français, Vous voyez, ça fait déjà le cinquième qu'on est en train de citer, qui Jacques Tati, avait le sens de la musique.
Mais c'est quoi? C'est le sens du rythme? C'est le...
Et puis alors après, si on va aux États-Unis, il y a Jerry Lewis, il y a Woody Allen, et puis si on remonte encore, il y a Chaplin qui écrivait ses chansons. Je sais pas où il y a, faut croire qu'il y a une... Il y a une corrélation entre la musique, le rythme, parce que la comédie, c'est le rythme.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il y en a qui ont pas ça. Ça peut être des grands acteurs, hein, mais pas des comédiens de comédie.
Oui.
Il faut avoir le sens du rythme. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est
trop tard. Préparer les faits, casser quelque chose.
Et le sens de la rupture.
Et le sens de la rupture.
Ce qui est évidemment dans le jazz, hein, ce qu'on appelle un break. Je vous dis, paf.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Pierre-Richard, c'est que donc Yves Robert vous engage dans Alexandre le Bienheureux, et puis vous allez, d'ailleurs il y est aussi pour quelque chose, il va d'une certaine façon vous convaincre de faire vos propres films, Le Distrait va suivre, Les Malheurs d'Alfred, etc. Et vous reprenez tout naturellement Vladimir Cosma pour la musique après l'avoir rencontré chez Yves Robert. C'était quoi, un coup
non,
de fou?
Non, je peux pas dire que je le dois à Yves Robert.
Oui.
J'ai pas repris tout naturellement
Vladimir Cosma.
Vladimir Cosma, quand j'ai fait Le Distrait, quand Yves me l'a produit, je connaissais personne dans le cinéma. J'en avais même pas fait un court-métrage. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit, tu veux pas mettre le film en scène, enfin le réaliser, moi je ferais que le jouer, je l'ai écrit, mais je le jouerai, puis c'est tout. Il m'a dit, non, je veux que tu le fasses toi-même. Je dis, mais j'ai jamais fait de film. Il dit, je m'en fous. Si tu le donnes à un autre, il se l'accaparait, j'aime mieux que tu fasses des erreurs.
Mais que tu sois toi-même,
tes personnages, et puis la poésie que tu dégages, voilà. Ouais. Et là-dessus, c'est comme ça, c'est lui qui a dû plaider ma cause auprès de Bernard Blier. Et puis c'est lui qui a dû dire à Vladimir, Vladimir, je voudrais que tu fasses la musique du film de Pierre-Richard. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai demandé Vladimir, dont j'ignore l'existence.
Mais ça a collé tout de suite, puisque vous avez ensuite enchaîné vos trois premiers films avec
après,
lui.
Après, d'abord, ça a collé tout de suite, parce que Vladimir, pour Le Distrait, m'a fait une musique qui collait parfaitement à mon personnage. Voilà. Il avait, Vladimir, compris mon personnage. Et c'est pas qu'il faisait des musiques comiques, parce qu'il y a rien de pire que ça fait surenchère. Si on joue une scène comique, faut pas pourtant faire tête ou les têtes. Bon, mais il avait compris d'une part mon personnage, qu'il avait choisi une clarinette qui clarinettiste, mais on enlevait la moitié de la clarinette. C'est dans un son particulier. Ça, c'était au fond la marque de mon personnage. Et puis de temps en temps, puisque j'ai quand même poétique ou sentimental, parce qu'il y a toujours des choses sentimentales au fond, et ben il me faisait une musique merveilleuse, dont j'ai pris 2, 3, 4, 5, 6, je sais plus combien.
Voilà, et il vous a même écrit dans votre second film une chanson, dans Les Malheurs d'Alfred, qu'on va peut-être écouter, c'était en 1972, voilà, vous continuez votre carrière de chanteur.
Oui, on fait.
Je sais qu'elle est pour moi,
Alfred,
la tuile qui tombe du toit, le clou que j'ai pas vu,
Alfred,
je vais m'asseoir dessus, les probabilités,
Alfred,
je les ai renversées, une chance sur un million,
Alfred,
je ne m'en fais pas, c'est bon. L'amour, c'est doux dans la prairie, sur un nid, de fourmis. L'amour, c'est chouette au mois de juin, avec un en rue des foins. Oui, elle sera pour moi, la peau d'anane là-bas. Je ne serai pas déçu, je vais glisser dessus. L'amour, c'est beau dans un bateau,
surtout quand
il prend l'eau. L'amour, c'est grand, c'est émouvant, dans les sables mouvants. Je suis qu'un petit pantin, le joujou du destin. Il s'amuse avec moi, mais me revaudra ça.
Un jour tu gagneras au Grand Prix de Paris,
moi,
ou bien au baccarat, je t'en fais le pari.
Oh, oh.
Tu pourras te marier avec qui t'aura plu. Tu pourras te noyer, on te repêchera plus.
Malgré tous mes malheurs,
Alfred,
je garde ma bonne humeur. Bon, 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 bon.
choc, c'est que c'est pour moi la peau de banane là-bas. Le clou que je ne vois pas, la tuile qui tombe du toit.
Les malheurs d'Alfred, c'était Pierre Richard en 1972, donc avec la musique de Vladimir Kosma, deuxième film d'une longue série de succès que vous avez fait soit comme réalisateur, soit comme acteur au cours de toutes ces années-là, et qui ont fixé effectivement ce personnage que Yves Robert voulait que vous deveniez d'une certaine façon au cinéma, Pierre Richard, avec toujours aussi dans chacune de ces comédies quand même un côté engagé presque, que vous revendiquez quand vous réfléchissez à pourquoi ça marche un film comique, il faut quand même aussi que ça dénonce quelque chose d'une certaine façon.
En tout cas, ils font pas tous ça.
Mais vous.
Mais moi, ça veut pas dire qu'ils font mal, mais moi c'est parce que oui, c'est vrai, j'ai toujours envie, et j'ai encore envie de dénoncer les absurdités du monde.
On peut les évoquer, il y a un thème dans chaque film, le distrait par exemple.
Dans le distrait, c'était la publicité, parce que la publicité m'indisposait, et je ne suis pas le seul. On ne pouvait pas ouvrir sa boîte à lettres sans qu'il y ait 30 publicités dans sa boîte à lettres. Et du coup, on ratait la vraie lettre qu'on avait. Murs, le son, les appels, les même quand on rentre dans une ville, il y a déjà les panneaux publicitaires. Enfin, bref.
Les malheurs d'Alfred, c'est un autre sujet.
Le deuxième, c'était les jeux stupide et Dieu sait que
les jeux télé,
je les ai dénoncés, mais je les ai pas guéris, hein. J'ai pas réussi, hein. J'ai l'impression même que c'est dans un plus grand,
encore pire. Vous avez perdu votre combat.
J'ai perdu mon combat et j'ai perdu encore plus un combat parce que le troisième, je sais, mais je dirais tout, les marchands d'armes.
Oui,
mon père Blier était un marchand d'armes. J'ai perdu mes trois matchs, mais ça me plaît bien quand même.
Et inversement, d'ailleurs, vous expliquez que peut-être certains de vos films comme réalisateur ont moins bien marché ou rétrospectivement vous paraissent moins réussis parce que justement il n'y avait pas sujet
j'avais
central.
J'avais oublié cette une des caractéristiques de mon cinéma. Le burlesque, c'est vrai, la politique, bien sûr. Ouais. J'étais un personnage inadapté, dans un monde. Et puis j'avais oublié ce quatrième volet qui est une dénonciation des absurdités de la vie, et Dieu sait qu'il y en a. Alors, elles sont, à mon avis, de plus en plus graves, d'ailleurs.
Quand on revient aux musiques de ces films, Pierre Richard, faut dire d'abord que ça a été l'occasion pour vous, d'abord, de travailler avec des grands solistes, hein, que choisi, je pense, par Vladimir Kosma, comme Georg Zamfir dans Le Grand Blond, la fameuse flûte de Pan.
Ah ouais, mais c'est encore une très jolie trouvaille de Vladimir, ça. Hein.
Oui.
De l'avoir fait venir de son Europe de l'Est pour aller jouer cette flûte de Pan qui donne une atmosphère, un ton très particulier au film, qui est quand même un film d'espionnage, et qui donnait comme ça un ton polar. Alors c'est une comédie certes, mais...
Ouais. Et puis c'est un film qui vous a contraint aussi à étudier le violon, simplement pour donner l'impression que vous saviez tenir votre violon, parce que rien que ça, ça prend beaucoup de temps.
Hein. Oh là là, rien que pour ça, j'ai failli avoir un torticolis, une luxation de l'épaule. C'est horrible, quand on du jour au lendemain doit tenir un violon, plus mes poignets tordus. Et puis après, j'ai joué avec les grands violonistes de l'opéra. Quand l'archer était au bout de sa course, il fallait que je sois avec eux, il fallait pas que je sois de l'autre côté. Il m'avait appris, le professeur, tout. Mais je me souviens plus du temps maintenant. Tire-tire-pousse. Tout ça pour être en accord avec eux.
Ah oui, c'est le boulot, le tire-pousse, les dents.
Tire-pousse, c'était notre code.
D'autant plus que vous aviez des conversations avec Kosma qui ne devaient pas arranger les choses, parce que lui, au fond, n'aime que les cordes, et vous...
Non, il n'aime pas que les cordes.
Vous n'aimiez que les vents.
Non, mais moi, j'aimais pas que les vents. C'est-à-dire que moi, à l'époque, c'était les Beatles, c'était... bon, alors moi, les cordes, c'est bien parce que les Beatles mais utilisaient des cordes, j'ai l'impression, mais j'avais l'impression que c'était du symphonique et moi je voulais que ça swing. J'ai changé d'avis, hein. Non pas parce que d'ailleurs j'ai pris de l'âge, mais simplement parce que je suis moins couillon.
Oui, n'empêche qu'il s'est adapté très gentiment.
Mais très
bien,
quand je lui ai demandé de faire du Count Basie, c'était dans le deuxième, là, où je danse sur une musique très Count Basie, finalement.
Ah ouais.
Ce genre de musique que j'avais apprise à Pigalle.
Oui, il vous en a pas voulu quand vous êtes allé pour un film suivant demander à Michel Fugain de faire la musique?
Je crois qu'il m'en a voulu un peu, ou en tout cas qu'il était triste. Je sais pas. Mais je pouvais pas faire à vitam aeternam
bien sûr. Puis vous êtes retrouvé.
Je pouvais pas. Après, ça me paraissait difficile de faire 70 films avec Valérie Cosma.
Bien sûr. Alors on va retrouver cette flûte du Grand Blond qui est évidemment encore dans toutes les mémoires. C'était le film d'Yves Robert en 1972. La musique de Vladimir Cosma pour Le Grand Blond avec une chaussure noire de Pierre, enfin pas de Pierre Richard pour le coup d'ailleurs, d'Yves Robert. Mais avec Pierre Richard. Oh, la limite parfois est pas si évidente comme ça entre les films de Pierre Richard et certains films avec Pierre Richard. Ils sont un peu construits sur mesure aussi d'une certaine façon.
Ben oui, parce que finalement, moi je me suis créé mon personnage avec mes trois premiers films.
Oui.
Et puis après, au fond, j'ai prêté mon personnage à des metteurs en scène comme Yves. Ou comme Weber.
Ou comme Francis Weber, qui vous a fait beaucoup d'autres.
Ou comme Oury, enfin bref. Après, j'étais devenu un personnage, les metteurs en scène avaient envie de tourner avec ce personnage.
Voilà, c'est ça, oui. Hein. Mais avec des méthodes très différentes. Alors, vous expliquez par exemple que avec Francis Weber, tout est réglé au quart de poil. C'était vraiment une construction très rigoureuse. À tel point qu'il vous disait d'ailleurs avec Depardieu et d'autres quand vous tourniez ensemble que vous deviez pas vous amuser en tournant. Le public devait rire, mais vous n'étiez pas là pour vous amuser. Quoi.
Ouais, bah alors là, il s'est quand même bien planté, hein, parce que on était comme deux adolescents. Hein, où c'est toujours pareil. Me suis jamais peut-être autant amusé qu'en pension, parce que c'est.
Ben oui. C'est la contrainte comme ça.
C'est la contrainte vous oblige à trouver des
à casser les règles.
À casser les règles. Et les plus beaux fous rires que j'ai pu avoir, c'est en pension. Parce que justement, on n'a pas le droit d'en avoir.
Ouais.
Et les plus beaux fous rires qu'on a pu avoir avec Gérard, c'est avec Weber.
Ah ouais.
Parce que justement.
Mais vraiment, il voulait pas, hein. Il aimait pas trop, quoi.
Non,
vous
c'est pas ça.
Un
non,
petit
non,
peu,
non,
hein,
il avait raison. Non, c'est pas ça qu'il disait. Il disait, parce que, il corrigeait nos tics, on a tous les occasions. Lui, c'est, oh, mais je vais te dire, ah, il est nul. Bon, alors, il dit, non, Gérard, non. Et puis, moi, c'était une manière, des fois, d'hésiter. Non, la phrase, elle est, je suis très content de vous avoir vu. Elle est pas, je suis très content de vous avoir vu.
Oui, c'est ça. Oui.
Il y a pas de virgule. Tu mets ça d'un coup. Bon, bref. D'ailleurs, justement, c'est d'une musique.
Ouais.
Weber a sa musique en lui.
Voilà,
et tant qu'on n'a pas répondu à sa musique personnelle, il nous l'a fait refaire. Une fois qu'on a compris sa musique, Gérard et moi, on s'en tirait très bien.
Ouais.
C'est, à la limite, c'est ceux qui débarquent parce qu'ils ont trois jours ou parce qu'ils n'ont pas encore. Et eux, alors eux, ils se tapent 32 prises. Hein.
Ça, c'était le jouet, la chèvre, les compères. Et puis, Gérard Oury, la carapace, le coup du parapluie, ça, c'était plus détendu avec Gérard Oury. Hein. le tournage. Il voulait, oui, mais... il voulait pas que vous ayez l'impression de travailler. Vous
oui, dites. Mais je, justement, c'est une autre façon de travailler. Mais Gérard, on faisait pas la scène, ou Zidi, on faisait pas la scène. Il me disait, tu reprends la scène, mais d'une manière différente. Non, lui, c'était Gérard ou Zidi, c'était le rythme.
Voilà,
c'est aussi
ça.
Le rythme encore, le toujours. Rythme, toujours. D'ailleurs, Zidi me disait, bon, cette scène, il demandait à la script, elle fait combien cette séquence? Elle fait 27 secondes. Pierre, fais-la moi 23. Son direction d'acteur, c'était ça. Fais-la moi 23. Alors, c'est-à-dire qu'au lieu de parler comme ça, mais je parlais comme ça.
Bon. C'est drôle.
Et, ouais. Et alors, à la fin, il fait combien? 23. J'avais le sens de ça. Musique, toujours. Et en 23, voilà.
Alors, pour préparer aussi les films, les scénarios, trouver des idées, etc., il y avait aussi une espèce de bande informelle pendant pas mal d'années de vos copains que vous retrouviez toujours à la Coupole. Hein. Ça devait être avant la rénovation de la Coupole. Il y avait notamment Topor et quelques autres qui faisaient partie de ce petit groupe.
J'étais le chouchou de la bande.
Voilà.
Or, bizarrement, cette bande, c'était tous ceux qui allaient devenir des Topor, Grimbert, Stenberg. C'était tous des intellectuels juif, et moi, j'étais ni intellectuel ni juif, mais il m'adorait. Et c'est pour ça qu'un jour, quand je suis arrivé le soir à la Coupole, alors c'était une sorte de scène comme ça, on était une douzaine, et puis je suis arrivé, j'ai dit, ah, ça y est, je vais faire mon premier film, et Topor s'est levé, il a tapé sur un verre pour demander le silence. Il a dit, messieurs, l'heure est grave, le cinéma est en train de tomber entre la main des goyes. Voilà.
Et voilà.
Et parmi eux, il y avait un docteur, Roëlan, il écrivait des livres de science-fiction, mais il était aussi docteur. Et c'est lui qui m'a dit, André, qui m'a dit, tu veux que je te donne un conseil? Achète La Bruyère. Dans La Bruyère, il y a Ménalc le distrait. Je l'ai acheté le lendemain, j'ai suivi son conseil. Je lui ai dit, mais c'est formidable. Et du coup, André et cet adjoint à moi, on a écrit tous les deux le scénario.
Voilà, ça c'était donc à vos tout débuts.
Et le deuxième, Topor s'est adjoint à nous, c'est vrai. Voilà.
Ça, c'était vos débuts de cinéaste, mais donc après, les succès sont arrivés très très vite. Ils ont été foudroyants, comme on le sait, pendant de nombreuses années. Et puis, on fait un petit saut dans le temps, parce que 10 ans après Le Grand Blond, 1982, alors ça, c'est moins connu du grand public, mais moi, ça m'amuse, vous enregistrez un disque avec une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Madame Sardine. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette chanson?
Ça, c'est Elisabeth Depardieu.
Elisabeth Depardieu, la femme de Gérard.
Oui, parce qu'on se voyait souvent quand même avec Gérard et Elisabeth. On se voyait, enfin souvent, oui, on se voyait assez souvent. Mais ne serait-ce qu'on se voyait beaucoup quand on jouait on tournait trois mois. Et puis un jour, Elisabeth, elle avait écrit une chanson, D'Or Petit Con, que j'adorais d'ailleurs, qui était la face
petit
B.
Con.
D'Or Petit Con, qui était la face B. Et la face A, c'était Madame Sardine. J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Ça m'a amusé de l'enregistrer. Et tout de suite, c'est bien parti. Il paraît que ça vendait à mort. Mais c'était un petit succès en devenir. Ça aurait pu être un grand, mais il fallait faire des télés. Et alors, j'ai détesté ça. Et j'ai abandonné. Et Bernheim, il s'appelait François Bernheim, qui était un ami de la famille et qui était un ami d'Elisabeth, m'a dit, Pierre, t'as pas le droit. Il faut que tu fasses des télés parce que ça vend bien, ça vend. Et j'avais pas envie. Et j'ai abandonné. Voilà.
Voilà. Heureusement, à la discothèque de Radio France, on garde tout. On a plusieurs 45 tours de vous, je vous signale d'ailleurs. Par exemple, La Complainte de l'homme qui souffre, le répondeur téléphonique.
Ah oui. Oh, je sais plus, moi, là.
Bogart et moi, etc.
Ça m'amusait. Mais ça m'amuse de les faire dans un studio, puis après, ça m'amuse plus de les défendre à la télé. C'est embêtant pour un chanteur.
Vous faisiez votre période quand même, en gros, entre 82 et 85, là, il y a une succession de 45 tours. Hein.
Ouais.
Bah, si on écoutait Madame Sardine, tiens.
Quelle heure est-il, Madame Sardine? 4h moins le quart. Monsieur Placard, qui vous l'a dit, dit la petite souris, ri, où habite-t-elle, telle dans la chapelle? Et que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour Jésus-Christ. Quelle heure est-il, Madame Persil? 5h moins le quart. Attention, Monsieur Peignoir, faut le trouver. En êtes-vous sûr?
Sûr,
Madame Chaussure.
Sûr.
Mais certainement.
Non.
Madame Piment.
Non.
Toi t'es bêta, moi je suis ballot.
On s'en fout si on a zéro.
L'école ça me pompe l'air, mon père est un gangster. L'école, ça me pompe l'air, le mien est commissaire. Tu t'es pas vu tête de morue, mais tu me reverras tête de rat. Et tu me reverras encore tête de mort. Yeah! est-il, Madame Sardine, 6h moins le quart, Monsieur Tiroir, de mes envieux, est-ce bien certain, tintin, Madame Parfum, bien entendu, Madame Laitue, moi je suis débile, et toi t'es nul, on s'en fout si on a une bille. L'école ça me font plaire, mon père est un gangster. L'école ça me font plaire, le mien est commissaire. Tu t'es pas vu tête de morue, mais tu me reverras tête de rat. Et tu me reverras encore tête de mort.
Quelle heure est-il?
Quelle heure est-il?
Madame Sardine.
Madame Sardine. Déjà?
Monsieur Placard.
On dit Monsieur Placard. Maintenant.
Alors,
je peux plus en placer une, hein.
Monsieur Placard.
Ah ah, je viens de le dire. Mais oui, mais oui. M'en fous. Fais ça.
Pour qui? Pour Jésus-Christ.
Ils m'ont piqué ma chanson, hein. Oh, oh. Ouais, bah, je me barre, moi. Ouais, bah, je me barre, moi. Oh, bah, je me barre.
On a l'impression que tout le monde s'amuse bien, là, Pierre-Richard, hein, dans
mais
cet non, enregistrement.
C'est vrai que je me suis bien amusé avec les gosses. Je m'entends toujours bien avec les enfants, moi. Hein.
C'est vrai? Ah oui?
Ouais, bah, j'ai fait pas mal de films avec les enfants. Je me suis toujours beaucoup plu avec eux. On apprend avec eux-mêmes.
Oui, vous avez ce public enfantin. Vous avez aussi des publics étrangers où vous êtes vraiment une idole en Russie, par exemple. Hein. Alors oui. Là, depuis le Grand Blond, tout le monde connaît Pierre Richard. Ça continue vos liens avec ce grand pays.
Oui, j'y vais de temps en temps. Enfin, là, ça fait un bout de temps que j'ai pas été, mais j'ai fait des tournées même de théâtre. C'était mon spectacle où j'étais seul sur scène. Pierre Richard III, par exemple. Je l'ai fait dans une quinzaine de villes en Russie. Je connais mieux la Russie que les Russes de base. Ouais. Ekaterinbourg, Oufa, Smala,
partout là-bas, Mourmansk.
J'étais un peu dans toutes ces villes. Et alors, c'est curieux, avant que j'apparaisse sur scène, ils mettaient toujours la musique du jouet.
Le jouet.
Pour eux, c'est le tube.
Et pour vous, c'est le meilleur de vos films avec Francis Weber, peut-être.
De toute façon, oui, c'est. Oui. De toute façon, je pense que c'est mon film préféré.
Ouais.
Enfin, j'aime beaucoup les autres, mais si on m'oblige à en dire un, ben voilà, je lui dirai.
Avant
celui-là.
La chèvre.
Oui, avant la chèvre. Je dirais celui-là.
Voilà.
Si on m'oblige. Après, alors eux, c'était la musique du jouet tout le temps.
Voilà. Et la diffusion de ces films dans le monde, elle a entraîné d'autres surprises. Par exemple, un jour comme ça, vous rencontrez Bob Dylan et vous découvrez que c'est un fan du Grand Blond avec une chaussure.
Oui,
une
il avait adoré. Noir, hein. Oui, alors, c'est une longue histoire. Je sais pas qu'est-ce que vous avez comme temps, mais.
Vous pouvez nous la résumer.
Non, la résumer, c'est que à l'entracte, je connaissais pas. À l'entracte, c'était un énorme VIP.
À Paris, Paris. Concert à Paris.
J'étais avec 5-6 amis, et puis il y avait un monde fou. Et puis je leur dis pour rigoler, je vous laisse 2 secondes, je vais dire bonjour à Bob. Tout ça pour faire le malin. Et au moment où je dis ça, tout au bout de cet énorme plateau, il y a une porte qui s'ouvre, il y a 10 gardes du corps qui font une espèce de rangée, et Dylan apparaît et fait ça. Il me fait un signe, c'est vrai qu'on est là. Et moi, du coup, je regarde, c'est autour de moi, non, c'est bien moi. J'y vais, on me laisse passer. Bob Dylan me prend par le bras, il rentre et je le suis. Et au moment où je ferme la porte, moi, je vois mes 6-7 copains qui étaient la bouche bée, qui ne revenaient pas, je venais de dire le temps de voir Bob. Là-dessus, je suis resté un quart d'heure avec Bob Dylan, qui m'a présenté à Scorsese, en plus. Alors,
on
était tous les trois. Oui, comme ça. Et puis au bout d'un quart d'heure, il m'a dit, bon Pierre, je vous laisse, je vais recommencer. La porte s'est ouverte, la rangée des gardes du corps s'est écartée, et mes 10 amis étaient toujours là, sans bouger, ils allaient à bouche bée comme un quart d'heure avant, ils n'avaient pas bougé. Je suis retourné vers eux, j'ai dit, allez, on y va maintenant.
Pierre Richard, en tout cas, c'est quand même un paradoxe, parce que la France, c'est le pays de Molière, et c'est le pays de la comédie, on pourrait dire, par beaucoup d'aspects, et en même temps, que ce soit dans le monde du théâtre, de la littérature, du cinéma, est-ce qu'on prend vraiment la comédie au sérieux? Est-ce qu'on la reconnaît comme un grand art? Évidemment, prendre la comédie au sérieux, ça n'a peut-être pas de sens, mais...
Oui, d'ailleurs... C'est une question qu'on me pose depuis tellement d'années et que je sais pas trop y répondre parce que oui c'est vrai ou plutôt j'ai envie de dire c'est comme ça je m'en fous, ma carrière elle s'est faite sur le public, Dieu merci. C'est vrai que si elle ne se faisait que sur la critique, j'aurais peut-être pas...
Vous avez reçu un César d'honneur.
Oui, d'ailleurs, alors comme quoi, oui, je viens d'être déjà injuste et surtout je suis injuste parce que il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, tout à coup Les Inrecuptibles m'ont découvert.
Vous me direz qu'ils
n'existaient pas avant. Donc je ne peux pas leur faire grève de ne pas m'avoir découvert si tard. Ils ont mis 4 pages sur moi en disant que je ne vais pas le dire parce que je suis
modeste néanmoins.
Modeste. Et du coup, 8 jours après, c'était les Cahiers du cinéma. Et puis du coup, comme s'il y avait tout à coup une espèce de comme ça de la théorie domino, enfin des anomies qui se relèvent plutôt, où tout à coup, on s'est rendu compte que j'étais pas l'histrion hurlu-berlu avec les yeux écarquillés, mais qu'il y avait quelque chose de plus. Mais c'est comme ça qu'on me disait au début, c'est vrai.
Vous trouvez que la comédie est un genre qui se porte bien aujourd'hui en France?
Elle s'est toujours bien portée.
Elle s'est toujours bien portée. Elle a toujours eu son public.
Elle a toujours eu.
Ouais.
D'une manière générale, on a... deux fois plus de chances d'avoir du monde en faisant une comédie. Alors après, vaut mieux faire une bonne comédie, intelligente, que n'importe quoi. Mais la comédie, le public, il en raffole.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous ne dédaignez pas, vous apportez votre concours à vos collègues.
Moi, je viens de tourner un film en Italie il n'y a pas longtemps. Il y a 15, un mois, je reviens. Je suis resté un mois en Italie, c'est un drame, mais carrément, un drame. Oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bien, c'est facile, oh mon Dieu. Oh y'a, je me suis dit, mais j'ai raté ma carrière, j'aurais dû jouer.
C'est tellement plus facile.
Oh y'a, j'avais aucune pression, rien. S'il fallait que je pleure, je pleurais. J'avais qu'à lever des grands yeux, là, et en buée, puis on disait, qu'est-ce qu'il est bien. Oh là là.
En tout cas, la comédie se renouvelle, la chanson se renouvelle aussi, et vous m'avez fait grand plaisir, Pierre Richard, en me proposant quelques choix, parce que, alors ce duo d'Arthur H et de Mathieu Chédid, est-ce que tu... M, je trouve ça magnifique. Vous suivez un peu l'actualité de la chanson?
Non, pas du tout, mais j'adore.
Vous adorez les deux?
J'adore les deux.
Ouais.
Mais j'adore les deux chanteurs, c'est pour ça que j'ai choisi. Parce que justement, il y a chez eux tout un monde poétique, très personnel. Et puis alors, c'est drôle parce qu'ils ont des voix radicalement opposées l'un et l'autre. Il y en a un qui a une voix flûtée.
Oui, carrément.
Comme,
oui,
presque comme
cantatrice.
Michael Jackson. Et puis l'autre, au contraire, qui a une voix rauque de blues. Donc sur la voix, elle est radicalement opposée, mais il y a chez les deux comme ça cette d'abord ce souci de la langue.
Ah ouais.
C'est très joliment écrit.
C'est beau, c'est bien écrit.
C'est beau, c'est bien écrit. Et puis c'est des chansons qui me font rêver parce que oui bah tiens j'aurais pu les inclure dans le petit éloge de la nuit.
Les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif.
Oui, j'aime.
Okay. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche
en une sublime squaw? Oui, j'aime.
Bon, alors nous irons vivre libres dans un pays sauvage. N'aie pas peur, je saurai te défendre. Et dans mon coup de botte, sonner les serpents à sonnette.
Les serpents à sonnette.
Sonner les serpents à sonnette.
Dans un pays sauvage.
Et nos armes seront.
Et nos armes seront.
l'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre et d'un bon coup de botte. Sonne les serpents à sonnette.
Sonne les serpents à sonnette.
Sonne les serpents à sonnette.
Seul sous la lune, donc un pur sang noir.
Ouais, ouais, j'aime bien.
Non mais c'est vraiment bien.
Ouais, pas mal. Est-ce que tu aimes, quand au bordel une jeune chanteuse moqueuse rend fou de plaisir pour les cow-boys?
Je sais plus.
La 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 la.
Mais Arthur H, un choix de mon invité Pierre Richard. Vraiment, c'est très très bon. Hein.
C'est beau, hein.
Oui. Vous écoutez beaucoup de musique, Pierre Richard?
Moins que je voudrais parce que j'ai pas toujours le temps, mais surtout quand je fais beaucoup de voitures, alors du coup j'emmène plein de CD.
De musique avec vous. Des CD. Pas seulement des clés USB, je veux dire.
Non, des CD. Ouais. Je suis pas encore assez moderne pour ça. Si je vais dans le midi, j'ai pour 6 heures de voiture, ben là, c'est génial parce qu'en plus, j'ai personne m'ennuie.
Voilà, parce qu'il faut dire que vous avez quelques vignes dans le midi, Pierre Richard.
Oui, c'est pour ça que je disais ça.
Hein. Non, mais moi, je le dis. D'accord. C'est aussi une de vos occupations aujourd'hui, favorite. Vous avez même beaucoup d'amis, du pays là-bas. Hein. C'est votre autre vie, on peut dire aujourd'hui.
2 mois par an, en tout cas, j'y tiens.
Voilà, vous y tenez.
C'est le minimum, mais j'y tiens.
Votre dernier film, ça remonte loin quand même, 1997, Droit dans le mur, ça n'avait pas vraiment très bien marché.
Pas, non, mais merci pour le pas vraiment, c'était un bide énorme et je l'ai payé très cher pendant très longtemps.
C'était Droit dans le mur, quoi.
Ah oui, j'y étais.
Voilà, et bien l'occasion se présentait de refaire un film comme réalisateur, aujourd'hui vous iriez volontiers ou...
Mais justement, j'étais en train d'être sur le point d'en faire un et puis finalement, les comités de lecture de la chaîne n'ont pas
donné suite.
C'est peut-être à cause de ce... Il a fallu encore que je fasse le malin, dénoncer des trucs qui pouvaient toucher des gens, peut-être que c'est pas... C'est plus fort que moi. Alors c'était beau et c'était poétique, mais alors je me suis attaqué à un sujet qui plaît peut-être pas, je sais pas.
Mais c'est pas exclu que ça
vienne. Je sais pas. Mais...
En tout cas, aujourd'hui, vous êtes sur scène. Et vous êtes heureux sur scène.
Exactement.
À la Scala.
Exactement.
Comment ça s'est présenté, cette rencontre avec cet auteur de romans noirs, Ingrid Astier.
Ingrid Astier, parce qu'elle elle écrit des romans chez Gallimard, ce qui n'est pas
la plus mauvaise des maisons.
Non. Et alors c'est des polars, mais des polars d'une très haute qualité. Et puis un jour, elle avait un tout petit bouquin qu'elle a écrit, Petit âge de la nuit, et elle m'a dit, ça t'ennuierait pas de le lire, parce qu'elle avait un petit cocktail, justement, de Gallimard, tout ça. Mais j'ai dit, si tu veux, j'ai lu 5-6 pages, 7-8 pages. Et puis après, elle me dit, c'était bien, ça t'amuserait pas? J'ai dit, oui, mais tu sais, moi, je suis pas un homme de théâtre. Oui, mais j'ai un ami, il est metteur en scène, d'ailleurs, il monte des Shakespeare à Londres. Il monte à Londres des Shakespeare. J'ai dit, mais attends, tu me parles d'un Shakespearien londonien et tu me demandes, moi, acteur burlesque avec lui. Et finalement, on s'est très bien entendu avec Garouti. Et c'est comme ça qu'on a monté le Petit Âge de la Nuit en partant des textes d'Ingrid qui sont...
Vous l'avez
très
construit ensemble,
vraiment. Non, c'est lui qui l'a construit.
C'est Gérald Garouti, oui. Le metteur en scène, qui a vraiment reçu la forme.
Oui, la forme. Et puis, il a choisi des poèmes. Tout en me demandant ce qui me plaisait, ce que je sentais pas, il m'obligeait pas à les dire. Hein, puis moi, j'en ai proposé aussi une ou deux fois, il les a pris. Mais c'est surtout lui. Et puis alors après, comme on n'avait pas envie ni lui ni moi de faire de la lecture, assis sur une table en train de lire le Petit Âge de la Nuit, il l'a mis en scène. Je bouge, je suis essoufflé des fois. Je bouge, je tombe, je me relève, je danse sur du Fats Waller. Il y a Edgar Poe où je hurle. C'est finalement un spectacle très animé,
C'est presque du musical, vous qui...
Non, non, parce que ouais, mais le musical avec Desnos, avec Baudelaire.
Oui, mais avec la danse, avec la musique, avec le texte.
Oui, parce que
ben,
ça, c'est justement le talent de Gérald, de me demander de faire des choses. J'ai énormément travaillé, parce que j'ai pas l'habitude de dire des textes comme ça, en articulant, moi qui aurais plutôt le roi du bafouillage.
À la tati.
Oui, là, c'est des gros melots. Génial. Ça, je le fais très bien. Je le fais naturellement, même.
En tout cas, voilà, vous êtes sur scène jusqu'au 30 juin. Vous avez donc ces images aussi de cette merveilleuse danseuse
Marie-Agnès
Gillot qui est avec vous. Et puis la musique, hein, on peut le signaler quand même, de Laurent Petitgand.
Qui est formidable. Ouais. Et ça m'a aidé beaucoup, parce qu'il n'y a rien de tel que de dire un beau texte et en plus d'avoir comme ça une espèce de musique qui me porte.
Et puis aussi, donc, dans ce spectacle, tous les soirs à la Scala, quelques chansons, et notamment celle-ci de Bachung, que vous aimez beaucoup.
Qui est sublime, tellement belle, qu'il chante. Et moi, pendant ce temps-là, je fume un cigare et je bois du vin.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors.
La nuit je mens, Alain Bachung, une des musiques du spectacle.
J'ai fait la cour à des murennes, c'est beau.
Oui, c'est très 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 belle chanson. Et puis cette voix déchirante. Ouais. Pierre Richard, donc vous êtes sur scène dans Petit Éloge de la Nuit, que vous aviez déjà donné au rond-point plusieurs semaines.
Mais on était frustrés parce qu'au rond-point, j'adore le rond-point. C'est ma maison, si je puis dire. J'ai joué 4-5 fois au rond-point, mais c'est jamais plus de 5 semaines, parce que c'est ça d'ailleurs
pas un théâtre tout à fait privé au sens où on
prolonge. Jean-Michel Rupp donne le maximum de possibilités à des jeunes de jouer. Bref, 5 semaines. Et ben forcément c'est un peu frustrant, parce que et donc là on joue une quinzaine de fois à la Scala, qui est un très joli théâtre moderne d'ailleurs, qui a été complètement refait, mais il a un passé, hein, la Scala.
Ouais, bien sûr. Vous êtes heureux sur scène comme vous avez été heureux sur des plateaux de tournage?
Oui, je suis heureux sur scène, c'est complètement différent.
Tous les soirs vous êtes content d'y retourner?
Oui, toujours. Ouais. Toujours. Il se passe toujours quelque chose sur scène, quelque chose de profondément fort. Ouais. J'ai toujours le trac, mais...
Tous les jours?
Oui.
Ouais.
Oui. Mais justement, si on n'a plus le trac, si on faisait ça, alors on serait un fonctionnaire du théâtre, ce serait un peu triste.
Et votre légendaire distraction, vous jouez parfois des tours
Au théâtre.
Au théâtre.
Oh, je vous vois venir. Mais... oui, mais je... non,
un petit peu.
Dans le temps.
Ça peut arriver. Bon, en tout cas, c'est à la Scala jusqu'à la fin du mois de juin. Et je crois qu'on va être très nombreux à vous y retrouver, Pierre Richard. On va se quitter, tiens, avec une autre chanson que vous avez faite il n'y a pas tellement longtemps. Il y a exactement 10 ans, en 2009. Dans un hommage à Nino Ferrer, ça vous est venu comment?
Non, ça m'est venu à rien du tout. Moi, on m'a demandé un jour, on m'a appelé. Oh, on aimerait beaucoup. J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Mais c'est laquelle? Ben, c'est ouais. Et c'est vrai que cette chanson.
Oh, et un bon.
On aurait dit qu'il l'avait écrit pour moi. On se connaissait pas.
N'est-ce pas,
ouais. Mais on aurait dit qu'il l'avait écrit pour moi. Il y a une rencontre de personnages, quand même.
Voilà. Et la preuve que votre carrière de chanteur, pas plus que celle de cinéaste ou d'acteur, n'est terminée. Non. Peut-être pas. On ne dit pas le dernier mot. Merci d'avoir été avec nous, ce matin.
C'est moi,
Pierre-Richard.
Merci de votre accueil.
Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma poupée, mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Mon bâton, mon mouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Où c'est-je? Je lave la famille de la. Mon sirop, ma camomille, ma potion, mes cachets, mes piqûres et mon bonnet. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, bon, qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi.
Extrait d'un album d'hommage à Nino Ferrer paru en 2009 avec l'orchestre La Boîte Noire dirigé par Pierre Bertrand. C'était donc cette chanson « Oh et un bon » interprétée par mon invité Pierre Richard. Et Pierre Richard, vous le retrouvez donc à partir du 16 juin et pendant tout le mois de juin à Paris, à la Scala, dans ce spectacle que nous avons évoqué ensemble, « Petit éloge de la nuit ».
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Voilà, et puis avant de nous quitter, eh bien un petit florilège musical. On a beaucoup parlé la semaine dernière d'Albert Roussel, le grand compositeur Albert Roussel, qui a aussi fait de l'opérette, c'était notre sujet. Mais comme le soulignait mon invité Damien Taub, eh bien même dans ses musiques d'orchestre, il y a souvent un côté fête foraine, dansant, léger. Et pour en témoigner, je vous propose d'écouter le second mouvement de sa quatrième et dernière symphonie.
Thank you.
Albert Roussel, Allegretto Scherzando de la 4e symphonie, merveilleuse page symphonique donc interprétée ici par l'Orchestre National de France sous la direction de Charles Dutoit, Dutoit qui avait enregistré chez Zerato une anthologie magnifique de la musique symphonique d'Albert Roussel. Et puis maintenant, juste pour le plaisir, deux voix incomparables, celle d'André Baugé et de Ninon Valin dans un extrait du Comte de Luxembourg de Franz Lehár.
Je vous aime, jamais.
Mais pourtant, songez-y.
Non, pas demain.
Calmez-vous, mon ami.
Que doit-il voir? Que faut-il prendre droit? Il le faut, assoyez à moi.
J'ai peur de m'abstenir.
Vanité, tout est moi.
Ou bien nous désunir.
Et pour toi.
Vous m'aimez à présent.
Qu'on ne chantera jamais aussi bien le français que ne le faisait Ninon Valin ici avec André Baugé dans ce duo du Prince de Luxembourg, opérette de Franz Lehár qu'on ne voit guère sur les scènes. Messieurs les directeurs de théâtre, jouez-nous un peu de Franz Lehár et pas seulement La Veuve Joyeuse s'il vous plaît, Le Pays du Sourire, Le Tsarevitch, Paganini, Le Comte de Luxembourg, Frasquita, etc. Il y a tout un répertoire à redécouvrir. En tout cas, ce duo langoureux nous rappelait que contrairement à ce que disait Michel Arnaud en début d'émission, la femme et l'homme sont parfois faits pour s'entendre, et c'était également le point de vue d'Arletty.
Quand au paradis, sous un panier couvert de fruits, Adam vit la femme, il fut bien surpris. Il fit stupéfait ce petit joujou, pourquoi que c'est fait? Elle vit un serpent, mesdames, lui dit l'œil en flamme. Comme le pommier pour la pomme. le mesdames ici, vous n'auriez pas le sourire, car il faut bien le dire, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme le pépin est fait pour le raisin, et le gant pour la main. Oui, pour l'homme, la femme est faite, comme le rond pour la serviette, comme le disque est fait pour le bonneau, et le doigt pour l'anneau, comme la cage est faite.
Arletty dans le film Une idée folle en 1932, une musique de Casimir Oberfeld et une chanson pleine d'enseignements ici avec l'orchestre de Raoul Moretti. Et puis avant de nous quitter, tiens, replongeons dans ces albums de musique légère de notre discothèque de Radio France, cette série intitulée Musicolor, principalement sous la direction de Paul Bonneau. Dans le quatrième de ces disques vinyles de la fin des années 50, on trouve une œuvre aussi tout à fait charmante comme celle que je vous ai déjà fait entendre. Là, c'est du compositeur Paul Alprandi, ça s'intitule Marche en avant. Marche à suivre par l'orchestre de musique légère de l'ORTF. Et oui, ça existait sous la direction de Paul Bonneau. C'était donc une composition, j'ai mal prononcé tout à l'heure, pardon, de Paul Alprandi. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique, Stéphane Poitevin avec Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado. Et samedi prochain, spécial Étonnez-moi Benoît qui durera 2 heures au lieu d'une heure et demie puisque nous vous proposerons la diffusion de la grande soirée d'anniversaire des 20 ans d'Étonnez-moi Benoît qui avait lieu donc la semaine dernière à la maison de la radio. Tous donc à l'écoute samedi prochain à 11h.
À réécouter sur francemusique.fr.